C'est vraiment, je te remercie Vincent pour aussi pour la confiance des responsables qui m'ont donné cette tâche. C'est un privilège aussi pour moi de venir. C'est un plaisir. Et j'espère que vous avez passé un bon moment d'adoration avec ces chants, que vous avez pu dialoguer avec Dieu. Et je vais vous inviter maintenant à passer un moment d'adoration, mais au travers des paroles de Dieu qui sont révélées dans ce texte, dans Genèse 15, et qui ont été révélées sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question ce matin. C'est pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Pourquoi vous êtes venu au culte ce matin? Peut-être que vous êtes venu parce que vous connaissez quelqu'un de votre entourage et que vous aimez bien. Vous êtes venu joyeusement. Peut-être que certains d'entre vous sont venus par obligation. Est-ce que vous êtes venu ici par tradition? C'est devenu une habitude, c'est devenu quelque chose de routinier? Est-ce que c'est quelque chose qui a perdu du goût dans votre vie? Ou peut-être, et c'est là où j'aimerais en venir, c'est là mon point, que vous êtes venu ici parce que vous voulez connaître Dieu. Et peut-être que Dieu est l'objet de votre foi. C'est celui en qui vous placez votre confiance et c'est celui que vous aimez, que vous voulez connaître. Ce matin, vous dites peut-être comme les apôtres dans Luc 17, « Seigneur, augmente-moi la foi ». Et j'espère que cette vision-là, la dernière vision que j'ai donnée, soit la nôtre ce matin. Je vais prier pour ça et pour que Dieu nous révèle au travers de son esprit des vérités ce matin qui vont changer notre cœur, changer notre vie. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, je te remets ce moment. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es un être qui bouleverse les vies. Je te prie, Seigneur, que ce texte ce matin puisse vraiment nous toucher, Seigneur. Je te prie pour ce que je dirai, Seigneur. Je suis un homme faible et qui peut se tromper. Je te demande, Seigneur, qu'on puisse retenir que ce que tu veux et que ce qui est bon, Seigneur, pour nous. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, prenez avec moi Genèse 15. Et je sais qu'il y a des visiteurs, donc peut-être que vous ne savez pas, mais on est en train de faire une série sur Genèse. Et donc, dès les premiers chapitres, on a vu à quel point Dieu était grand. On a vu à quel point Dieu avait créé toute chose, qu'il était distinct de sa création, contrairement à tous les dieux païens, et qu'il était à la fois un Dieu personnel, un Dieu qui se révèle à l'homme. On a vu dans le même temps comment les hommes ont lamentablement échoué, comment ils ont désobéi à Dieu, comment ils ont commis des meurtres, comment ils ont désobéi à la voix de Dieu et comment ils ont montré leur méchanceté. On a vu comment Dieu était un Dieu patient, un Dieu juste et un Dieu protecteur au travers de l'histoire de Noé. On a vu comment les hommes voulaient atteindre Dieu, voulaient se faire un nom, s'élever au niveau de Dieu au travers de l'histoire de la tour de Babel. Mais les chapitres 11 à 14 nous ont révélé un autre nom, celui d'Abraham. A-B-R-A-M, à ne pas confondre avec Abraham, qui est le nom qui lui sera donné par la suite. Abraham, celui avec qui Dieu fait une alliance. Abraham part de sa patrie pour aller vers le pays dont Dieu lui fait la promesse. Abraham a eu des hauts en faisant confiance à Dieu pour son avenir. Abraham a eu des bas, notamment lorsqu'il a dit que sa femme était sa sœur. Il pensait pouvoir préserver son avenir par lui-même. Donc, on lit Genèse 15, qui est la suite de la première bataille victorieuse d'Abraham contre les rois, où il a pu sauver son frère, Lot, et où il a pu montrer, illustrer la fidélité de Dieu. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers, dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Vous venez d'entendre ici le premier dialogue entre Abraham et Dieu. Le premier. Dans les chapitres 11 à 14, à 3 reprises, Abraham entend la voix de Dieu, mais aucun dialogue n'y est rapporté. Est-ce que vous voyez cette bague ? Cette bague, c'est le signe, c'est le symbole d'une relation qui a été donnée lors d'un mariage, au mariage de Nathan et de Sarah. D'ailleurs, je remercie Nathan de me faire confiance de garder sa bague. Une relation entre un homme, une femme, une relation basée sur des promesses. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une alliance. Le texte que nous venons de lire symbolise à sa manière une alliance, une relation, cette fois-ci entre Dieu et entre l'homme, Abraham. Une relation basée sur des promesses. Et c'est pour ça que, au verset 18, le mot « alliance » est mentionné pour la première fois en ce qui concerne Abraham et Dieu, pour parler de la relation entre Abraham et Dieu. Dieu, c'est l'initiateur. C'est l'auteur de cette alliance. Le verset 1 nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Et ce texte nous révèle comment Abraham a eu foi en Dieu, comment il a placé sa confiance en Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on essaye de réaliser comment devenir des hommes et des femmes de foi dans notre vie chrétienne. On va essayer de voir 3 choses. Donc, je suis resté dans le conventionnel. Premièrement, un homme, une femme de foi doit recevoir les promesses de Dieu. Deuxièmement, il doit croire aux promesses de Dieu. Et dernièrement, il doit être sauvé par les promesses de Dieu. Hop. Donc, tout d'abord, un homme de foi, une femme de foi reçoit les promesses de Dieu. Dans ce texte, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est que Abraham vient de voir au chapitre 14 Dieu agir dans sa vie. Il vient de lui donner la dîme de tout ce qu'il possède. Je crois que c'est la première fois qu'Abraham donne sa dîme. Et au verset 22 du chapitre 14, il est dit « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel, de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi. » Là, il est en train de parler à un roi. « Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham. » Ici, on voit la foi d'Abraham en action. Alors, comment se fait-il que le chapitre 15 commence par une parole de l'Éternel qui vient vers Abraham et qui lui dit « Ne crains pas, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Il ne faut pas oublier qu'Abraham, c'est un gars comme toi et moi. On est tous en quelque sorte des mini-Abraham. Et Dieu sait à quel point notre foi a besoin d'être reboostée par ses promesses. Et je me suis posé la question, quelles sont les promesses qu'Abraham reçoit? Et j'en ai noté 6. Donc Abraham reçoit 6 promesses et j'aimerais qu'on essaye de les voir et de constater ce qu'elles peuvent signifier dans notre vie à nous. Premièrement, première promesse, Abraham aura une récompense très grande. Il est dit, alors qu'il vient de laisser tout un trésor, que cette récompense sera très, très grande. C'est-à-dire que des fois, dans notre vie, on va devoir délaisser quelque chose qui a de la valeur. Une richesse à nos yeux pour préférer fixer les yeux sur Jésus-Christ. Pour préférer les yeux, fixer les yeux, pardon, sur quelque chose qui est en Christ, en Dieu, qui a la vraie valeur. Colossiens 3, 23, vous pouvez juste écouter, et ça s'adresse à nous ce matin. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Se rappeler de l'héritage que nous avons en Christ, se rappeler de l'héritage céleste, notamment, stimule notre foi et nous fait marcher par la foi. Deuxièmement, Abraham aura un fils qui sera son héritier, un fils biologique donc. Et troisièmement, sa postérité sera semblable au nombre d'étoiles dans le ciel, c'est-à-dire innombrable. Deuxième et troisième promesse. Et en fait, ici, Dieu ne fait que rappeler ce qu'il avait déjà dit. Au chapitre 13, il a déjà dit qu'Abraham aurait une grande postérité semblable à la poussière de la terre. Mais très souvent, nous avons entendu les promesses de Dieu dans la Bible, mais nous doutons. Nous doutons, nous avons besoin d'une confirmation de Dieu. Et Dieu, dans sa patience, dans sa bonté, tel un ami, nous rappelle ses promesses. Et c'est le rôle du Saint-Esprit qui vit en chacun de nous si nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que nous sommes l'accomplissement de cette promesse-là. Ici, nous sommes l'Église, nous sommes l'accomplissement de la promesse de la postérité d'Abraham, de toutes ces étoiles qu'Abraham voit un soir. Galates 3 nous dit, or, et là il faut bien écouter, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Ce matin, si vous êtes en Christ, si nous sommes en Christ, nous sommes fils d'Abraham. Et c'est une pensée vraiment extraordinaire à comprendre et à réaliser dans notre propre vie. Nous hériterons des promesses célestes. Quatrièmement, promesse que Dieu fait à Abraham, c'est que Dieu va juger la nation qui opprimera sa postérité pendant 400 ans environ. Et la nation, peut-être que vous le savez déjà, la nation dont il est question ici, c'est bien sûr l'Égypte qui opprime le peuple d'Israël et qui l'opprime en Égypte pendant plus de 400 ans. Il fait d'eux des esclaves. Et le jugement de Dieu, ça sera les 10 plaies d'Égypte, donc qui institueront la Pâque juive notamment. Et ici, c'est aussi une façon de prophétiser pour le peuple d'Israël, pour sa délivrance. Parce que si on suit l'idée que Moïse est l'auteur de la Genèse, ça leur donne de l'espoir pour sortir de cet esclavage. Pour nous, Jésus a dit en Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Peut-être qu'en ce moment, vous vivez une période difficile. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez une période d'oppression. Vous vivez en quelque sorte des Égyptiens autour de vous. Et je veux vraiment que vous preniez cette promesse de Dieu. encouragés par l'amour de Christ qui nous purifie, qui nous encourage, qui est toujours fidèle pour nous accompagner. Cinquième promesse. Abraham vivra une heureuse vieillesse. Et sixième promesse, Dieu donne le pays promis à sa postérité. Alors pourquoi Dieu dit à Abraham qu'il va vivre heureux et longtemps? C'est pour qu'il ne s'inquiète pas de l'avenir et pour qu'il sache, à son âge en plus, se reposer en Dieu. Qu'il sache se reposer en Dieu. Qu'il ne compte pas sur lui-même. Et Dieu promet à la postérité d'Abraham, il est promis, bien sûr, il est question du peuple d'Israël. Et nous qui sommes la postérité spirituelle d'Abraham, qu'en est-il? Dieu nous réserve aussi une patrie céleste, une patrie, un pays promis. Et après le retour de Christ, et c'est important que dans notre foi chrétienne, pour continuer à marcher avec Christ, de se rappeler de cette promesse-là que nous recevrons le pays promis. Nous hériterons d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et ça sera la perfection. Nous serons unis. Il n'y aura plus aucun péché. C'est une sublime image qui nous attend et qui sera réelle. Pensons que cette image, nous allons la vivre après notre mort. Ça nous fait vivre différemment. Donc on a survolé quelles sont les promesses qu'Abraham reçoit et qu'est-ce qu'elles peuvent signifier dans notre vie actuelle. Mais pour que nous devenions des hommes et des femmes de foi, il faut faire un pas de plus. Il faut croire, mais pas simplement intellectuellement, plutôt dans le sens chérir les promesses de Dieu. Donc, petite télécommande. Deuxième, un homme, une femme de foi doit croire aux promesses de Dieu. Abraham, au verset 2, répond « Seigneur, éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et là, il faut bien comprendre le raisonnement. Imaginez, mettez-vous à la place d'Abraham. Il y a quelques années, déjà il est vieux, et il y a quelques années, Dieu lui dit qu'il va avoir beaucoup d'enfants, qu'il va avoir une postérité semblable à la poussière de la terre. Et Abraham, il n'a aucun enfant. Il y a de quoi douter. Il est en train de dire à Dieu... en train de me promettre un petit peu l'impossible là. Personne va naître de moi, je vais préférer, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire. Je vais peut-être prendre un de mes serviteurs, hein, qui sera mon héritier. Et on a un peu perdu cette conception-là, mais dans l'Antiquité, le fait de ne pas avoir un héritier, déjà c'était une catastrophe pour le père de famille, et le fait de prendre un serviteur comme héritier, c'était une pratique assez courante en Mésopotamie. C'était une sorte d'arrangement. Et ce qui est intéressant de constater, de remarquer, c'est qu'Abraham passe de la constatation « Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier » à l'accusation « Tu ne m'as pas donné d'héritier » versets 2 et 3. Un homme, une femme de foi, doit croire aux promesses de Dieu. Mais il nous arrive de douter, de remettre parfois même en cause Dieu lui-même. Et pourquoi est-ce qu'on le remet en cause? Pourquoi? C'est parce qu'on ne voit pas encore l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. On préfère marcher par la vue plutôt que marcher par la foi. Hébreux 11, verset 1, je pense qu'on connaît presque tous ce verset, mais c'est important de se rappeler de la vérité qu'il transmet. Or, la foi est une assurance, est une ferme assurance même, des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et le passage continue au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Mais une espérance qui ne se réalise pas opprime notre cœur. Ça, c'est dans la nature humaine. Et ce qui est important de faire, c'est de cultiver le fruit de l'esprit qui est la patience, pour marcher par la foi. Alors vous savez, lorsqu'il y a les élections présidentielles, les politiciens vous balancent une série de promesses pour que vous votiez pour ce candidat-là. Et ces promesses-là rendront ce candidat-là assez particulier, assez spécial. Assez spécial pour que votre vote soit mis dans l'urne. Mais, surtout les Français, hein, mais un petit peu tout le monde aime bien reprocher au président « Ah, tu n'as pas tenu tes promesses ». Il n'a pas tenu ses promesses, celui-là. Il a fait un mauvais quinquennat, il a fait un mauvais septennat. Mais écoutez-moi bien, les promesses de Dieu sont à des années-lumière de ce que vous pouvez entendre à Matignon, de ce que vous pouvez recevoir dans vos boîtes aux lettres. Les promesses de Dieu sont certaines. Elles ne changent pas. Dieu nous fait ses promesses et le plus important n'est pas de savoir si en ce moment votre foi, elle est grande, si votre foi, elle est petite. L'important est de savoir qui est l'objet de votre foi. En qui placez-vous votre confiance? L'important, c'est que votre foi soit placée sur un roc, soit placée sur Dieu lui-même, sur des promesses certaines, pas sur des promesses des politiciens. Dieu, c'est quelqu'un qui rassure. Dieu, c'est quelqu'un qui est fidèle. Et dans ce passage de Genèse 15, il y a un pacte symbolique qui est mis en place. Je pense que vous avez dû le voir lorsque je l'ai lu, au verset 9 à 17. Je lis le verset 9 et je vous laisse le temps de penser à la suite. Ça va revenir. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Et Abraham va couper ces animaux par le milieu et il va les mettre face à face. C'est un geste qui est symbolique et encore une fois qui est courant dans l'Antiquité. Dieu est en quelque sorte en train de dire « J'établis une alliance par des promesses avec toi ». Ce rituel concluait une alliance. Et en fait, le but à l'époque, c'était que les deux parties passent au travers de ces animaux qui ont été découpés et mis l'un en face de l'autre, que les deux parties passent par ces animaux, au travers, pour signifier qu'ils étaient liés en passant par ce chemin de sang, pour signifier qu'ils étaient inséparables. En d'autres termes, ça voulait dire que si l'un d'entre eux ne tenait pas parole, il finirait comme ces animaux-là. Et il y a quelque chose d'assez fabuleux dans ce texte, c'est que Abraham veut croire. Abraham demande une confirmation à Dieu et Dieu lui donne une garantie. Abraham demande une confirmation et Dieu lui donne une garantie. Bien plus, Abraham, au verset 12, tombe dans un profond sommeil. Même un profond sommeil tombe sur lui, il est dit dans le texte hébreu. Et une bonne partie des théologiens que j'ai lus estiment qu'à ce moment-là, Dieu s'engage complètement. Abraham n'a pas d'engagement à avoir dans cette alliance. C'est Dieu qui s'engage pleinement pour son alliance. Verset 17, « Voici une fournaise fumante, des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Mais rappelez-vous, qu'est-ce que je viens de dire? Les deux parties devaient passer à travers ces animaux. Dans le texte, seul Dieu passe au travers de ces animaux. La grâce de Dieu est déversée sur Abraham qui n'a rien à faire. Comment ne pourrait-il pas croire, obéir en retour? Et nous, quelle est notre réaction face aux promesses? Sommes-nous prêts à croire? Finalement, entre les promesses que Dieu fait à Abraham et l'alliance qui est ratifiée, qui est conclue entre deux, on retrouve un verset qui est libérateur. Libérateur pour Abraham et libérateur pour nous. On l'a lu ce matin d'ailleurs, il était aussi dans Romains 4. Donc c'est troisièmement, j'ai fait à l'envers, excusez-moi. Oula. Non. Voilà. Bon, je ne suis pas trop technologie apparemment. Le verset 6. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grands hommes que vous connaissez qui ont été bouleversés par ce verset-là. Donc, écoutez-le bien. Verset 6, Abraham eut confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'il place sa foi en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Dans d'autres versions, c'est marqué que Dieu lui compta comme justice. C'est-à-dire que Abraham est vu juste aux yeux de l'Éternel. Les hommes et les femmes de foi sont sauvés par les promesses de Dieu. Et c'est une des plus belles vérités qu'on peut vivre dès aujourd'hui. Il est dit donc qu'Abraham a foi, mais la question que je pose et que je me suis posée, c'est qu'il y avait un petit problème. Hébreux 11, qu'on a lu tout à l'heure, disait qu'il eut déjà la foi dès le chapitre 12, en fait. Dès qu'il est parti de sa patrie, il avait déjà la foi. Est-ce qu'il a la foi de nouveau? Pourquoi est-ce que c'est mentionné qu'il fut justifié à ce moment-là? Abraham avait déjà la foi, je pense. Mais c'est possible qu'il ait été vu juste devant Dieu à ce moment précis du texte parce que c'était une foi qui était concentrée sur la promesse d'un fils qui allait être une bénédiction et qui viendrait pour le monde entier, notamment par Jésus-Christ. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas compris, Abraham a été vu juste devant Dieu à ce moment précis du texte parce que c'était une foi qui était concentrée sur la promesse d'un fils par qui la bénédiction viendrait pour le monde entier. Et Paul, donc Paul c'est un apôtre qui a écrit beaucoup de passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Au chapitre 4 de Romains, donc on a lu ce matin, il est dit, donc là je ne vais pas le relire en entier, mais je vais lire les premiers versets, parce que ça nous permet d'interpréter ce passage-là, puisqu'il a été sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et ce matin, cette vérité-là doit nous libérer. Si on ne l'a pas déjà reçue dans notre cœur, cette vérité-là doit nous libérer. Et je pense que certains d'entre vous connaissent Martin Luther. C'est le verset qui l'a converti à Christ. C'est le verset qui lui a fait comprendre l'amour de Christ. Ce passage nous dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Pourquoi? Sinon, on serait en train de se glorifier. On serait en train de se mettre en avant, pas devant Dieu, mais devant les hommes. Si je suis justifié par mes propres actions, je deviens orgueilleux. Mais si j'accepte l'idée que je ne peux pas être juste devant Dieu par mes propres œuvres, mais seulement par ma foi en Christ, toutes les œuvres que je vais faire ne seront que le reflet d'une foi authentique qui s'est appropriée les promesses de Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu dans un corps de chair. Et la première fois où nous retrouvons le mot « alliance » dans le Nouveau Testament, c'est dans la bouche de Jésus, en Matthieu, chapitre 26, verset 27, où Jésus prend une coupe, la donne à ses disciples et dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Les promesses de l'Ancien Testament qui annonçaient un Messie qui allait être brisé pour nos péchés, pour les péchés du peuple, s'accomplissent en Jésus-Christ. Jésus a vécu une vie parfaite, lui. Une vie que nous devrions vivre, mais que nous n'arrivons pas à vivre. Il est allé sur la croix, et qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix? Dieu a conclu une alliance avec l'homme. Dieu a conclu une alliance avec l'homme, afin d'entrer en relation avec lui. Une relation qui est basée sur des promesses. Jésus, sachant qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, souffre pour nous, il est comme un animal sacrifié, il accepte de prendre sur lui la colère de Dieu, que nous devrions recevoir à cause de nos fautes, il accepte de se faire pécher pour que nous soyons purifiés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces promesses-là, nous pouvons les goûter dès aujourd'hui, et nous les goûterons pleinement lorsque nous serons en Jésus-Christ, et lorsque nous verrons Jésus-Christ, pardon. Jésus dit en Jean 8, pour terminer, 56, « Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. » Et la question que je pose ce matin, c'est « Est-ce que tu as dit oui à Dieu ?» Est-ce que tu as dit oui à Dieu ? Il veut faire une alliance avec toi. Est-ce que tu lui as dit oui ? Vous avez juste à placer une sincère foi vivante en Dieu. Et elle vous rendra juste à ses yeux. Parce qu'il vous a donné sa justice lorsqu'il est mort sur la croix. Et si vous êtes déjà en Christ, je vous encourage à continuer à obéir, à faire sa volonté. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît une foi en Christ. Et maintenant, je vais prier pour que ça agisse dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es le serviteur parfait. Merci parce que tu nous as tellement aimés. Merci pour ce texte, pour la foi d'Abraham. Merci parce que même s'il a quelquefois eu des doutes, Seigneur, c'est un héros de la foi. C'est quelqu'un, Seigneur, qui a placé sa confiance en toi. Merci parce que tu as conclu une alliance avec lui et parce que tu l'as fait, Seigneur, sans rien lui demander. Et merci parce que de même, tu ne nous demandes rien, si ce n'est d'avoir la foi en toi. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Seigneur, si nous n'avons pas encore compris ça ce matin, illumine notre esprit. Et je te demande, Seigneur, qu'on puisse vivre une vie qui t'honore, qu'on puisse être des hommes et des femmes de foi dans cette Église. Et là où nous vivons. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu vas agir dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.